La croissance verte n'existe pas, n'existe pas.
Alors la réponse est non, la réponse est non, non, non.
We will have to change, we will have to change. Hope is not blah blah blah. Blah blah blah.
Bonjour et bienvenue dans les décroissants tout chauds. Il y a 52 ans, le rapport The Limits to Growth, en français les limites à la croissance, alertait déjà sur les limites planétaires. Écrit en 1972 par 4 scientifiques, dont Dennis et Donella Meadows, ce rapport établissait pour la première fois les conséquences dramatiques de la croissance exponentielle dans un monde fini. Morceau choisi. La croissance exponentielle sous l'angle mathématique. Les conséquences inattendues de la croissance exponentielle fascinent l'être humain depuis des siècles. Une légende perse raconte ainsi l'histoire d'un habile courtisan qui avait offert un magnifique échiquier à son roi et avait demandé en échange que ce dernier lui donne un grain de riz pour la première case, 2 grains de riz pour la deuxième, 4 grains pour la troisième et ainsi de suite. Le roi accepta et demanda qu'on aille chercher du riz dans ses entrepôts. La 4e case de l'échiquier nécessita 8 grains de riz, la 10e, 512 grains de riz, la 15e, 16 384 et la 21e rapporta aux courtisans plus d'un million de grains de riz. Arrivé à la 41e case, il fallut faire venir 1000 milliards de grains de riz, 10 puissance 12, et il ne fut pas possible de continuer jusqu'à la 64e, car il aurait fallu plus de riz qu'il n'y en avait dans le monde entier. On a coutume en France de poser une énigme qui illustre un autre aspect de la croissance exponentielle. L'apparente soudaineté avec laquelle une quantité qui croît de façon exponentielle atteint une limite donnée. Supposons que vous possédez un étang. Un jour, vous apercevez qu'au milieu de cet étang pousse un nénuphar. Vous savez que chaque jour, la taille du nénuphar va doubler. Vous prenez alors conscience que si vous laissez pousser la plante en toute liberté, elle aura complètement recouvert la surface au bout de 30 jours, étouffant toute autre forme de vie dans l'étang. Mais le nénuphar qui pousse est si petit que vous décidez de ne pas vous inquiéter, vous vous en occuperez quand le nénuphar recouvrira la moitié de l'étang. En prenant cette décision, combien de temps vous êtes-vous donné pour empêcher la destruction des autres formes de vie dans votre étang? Eh bien, vous ne vous êtes laissé qu'un jour. Le 29e jour, l'étang est à moitié recouvert. Donc, le lendemain, après un dernier doublement de la taille du nénuphar, l'étang le sera entièrement. Au départ, attendre le moment où l'étang serait à moitié recouvert pour agir paraissait raisonnable. Le 21e jour, le nénuphar ne recouvre en effet que 0,2% de l'étang. Le 25e jour, il en recouvre 3% seulement. Et pourtant, la décision que vous avez prise ne vous a laissé qu'un jour pour sauver votre étang. On voit bien ici comment une croissance exponentielle à laquelle s'ajoute le temps de réaction peut conduire au dépassement des limites. Pendant une longue période, l'augmentation paraît insignifiante et il ne semble pas y avoir de problème. Puis, la situation se met à changer de plus en plus vite jusqu'à ce que, avec le ou les deux derniers doublements, on n'ait plus le temps de réagir. Et le problème, désormais évident, causé par le nénuphar le dernier jour, ne vient pas d'un quelconque changement du processus. Le rythme de croissance du nénuphar est resté exactement le même tout au long du mois. Il n'empêche, cette croissance exponentielle s'accumule soudainement et engendre un problème qui n'est plus gérable. Vous pouvez directement faire l'expérience du passage soudain de l'insignifiance à la surcharge. Imaginons que vous décidiez de manger une cacahuète le premier du mois, 2 cacahuètes le lendemain, 4 le jour suivant et ainsi de suite. Au départ, vous achèteriez et vous consommeriez une quantité négligeable de nourriture. Mais bien avant la fin du mois, votre compte en banque et votre santé s'en ressentiraient sérieusement. Combien de temps pourriez-vous tenir avec cette ingestion exponentielle de nourriture qui double tous les jours? Le 10e jour, vous n'auriez à consommer qu'un peu moins de 500 grammes de cacahuètes. Mais le dernier jour du mois, votre régime, reposant sur un doublement journalier de votre consommation, vous obligerait à acheter et à manger plus de 500 tonnes de cacahuètes. Cette expérience ne vous serait pas très préjudiciable dans la mesure où, un jour, confronté à une quantité de cacahuètes impossible à ingurgiter, vous décideriez d'abandonner. Dans cet exemple, le délai n'est pas important entre le moment où vous entamez une action et celui où vous prenez pleinement conscience de ses conséquences. Une quantité qui croît selon une fonction purement exponentielle double en un laps de temps constant. Dans le cas de la colonie de cellules de levure, le temps de doublement était de 10 minutes. Une somme d'argent placée dans une banque et rémunérée à 7% par an double tous les 10 ans environ. Enfin, pour le nénuphar et l'expérience avec les cacahuètes, le temps de doublement était dans les deux cas d'une journée très précisément. Il y a un rapport très simple entre le taux d'accroissement en pourcentage et le temps qu'il faut pour qu'une quantité double. Le temps de doublement est approximativement égal à 72 divisé par le taux d'accroissement en pourcentage.
Un café ? Un décroissant tout chaud ?
Vous êtes bien sur Radio B avec Gaëlle
et Lola.
Le dépassement. Parlons de dépassement. Le dépassement, c'est lorsqu'on va trop loin, qu'on va au-delà de certaines limites de façon accidentelle, sans l'avoir voulu. Nous sommes tous les jours confrontés à des dépassements. Lorsqu'on se lève trop vite d'une chaise, on peut perdre l'équilibre. Lorsqu'on tourne trop le robinet d'eau chaude de la douche, on peut se brûler. Sur une route verglacée, on peut glisser et ne pas pouvoir s'arrêter au stop. Lors d'une fête, on boit parfois plus d'alcool que notre corps ne peut raisonnablement métaboliser et le lendemain, on se réveille avec un terrible mal de tête. Il arrive régulièrement que des entreprises de construction bâtissent plus d'immeubles qu'il ne leur a été demandé, si bien qu'elles doivent vendre chaque unité moins cher que sa valeur et risquent la faillite. On construit souvent trop de bateaux de pêche et la flotte, trop importante, attrape beaucoup trop de poissons pour que la pêche soit durable. Les ressources halieutiques se mettent alors à diminuer, ce qui oblige les bateaux à rester au port. Les entreprises de produits chimiques ont fabriqué plus de composés chlorés que la haute atmosphère ne pouvait en assimiler. Résultat, la couche d'ozone va rester sérieusement endommagée pendant encore plusieurs dizaines d'années, le temps que la quantité de chlore baisse dans la stratosphère. Les trois conditions d'un dépassement sont toujours les mêmes, que ce soit au niveau individuel ou planétaire. Tout d'abord, il y a la croissance, accélération et changement rapide. Ensuite, on se trouve face à une forme de limite ou de barrière que le système en mouvement ne peut franchir sans risque. Enfin, il y a soit retard, soit erreur dans la prise de conscience et dans la mise en place de mesures destinées à maintenir le système en deçà des limites. Ces trois conditions, croissance, accélération, changement rapide, sont nécessaires et suffisantes pour qu'il y ait dépassement. Le dépassement est un phénomène ordinaire qui se présente sous toutes les formes possibles ou presque. Il peut s'agir d'un changement physique, comme l'augmentation de la consommation de pétrole, d'un changement organisationnel, comme l'augmentation du nombre de personnes à diriger, d'un changement psychologique, comme le fait de réviser sans cesse à la hausse ses objectifs en matière de consommation. Il peut aussi s'agir d'un changement financier, biologique, politique ou autre. Les limites aussi sont très diverses. Elles peuvent être imposées par une certaine quantité d'espace ou de temps, ou par les paramètres physiques, biologiques, politiques, psychologiques ou autres d'un système. Les retards ont eux aussi de multiples causes. Ils peuvent être la conséquence d'une inattention, de données erronées, d'informations obtenues trop tard, de réflexes ralentis, d'une bureaucratie lente et compliquée, d'une théorie inexacte sur les réactions du système ou d'une dynamique qui empêche d'arrêter rapidement le système en dépit de tous les efforts. Par exemple, il peut y avoir retard lorsqu'un conducteur ne réalise pas dans quelle mesure le verglas réduit l'efficacité de son freinage. L'entrepreneur s'appuie sur des prix à l'instant T pour prendre des décisions qui ne vont affecter le marché que 2 ou 3 ans plus tard. Les propriétaires de navires de pêche déterminent leurs activités en fonction des prises récentes et non en fonction d'informations sur le taux de reproduction à venir des poissons. Il faut des années pour que les produits chimiques migrent de l'endroit où ils sont utilisés vers un point de l'écosystème où ils causent de graves dégâts. Dans la plupart des cas, le dépassement est sans conséquence. Le franchissement d'un grand nombre de limites est le plus souvent sans risque et se produit suffisamment souvent pour que, lorsqu'il y a un danger potentiel, on ait appris à l'éviter ou à en réduire les conséquences. On passe ainsi sa main sous l'eau avant d'entrer dans la douche. Des dégâts peuvent se produire, mais ceux-ci sont rapidement combattus. La plupart des individus essaient de dormir tard le lendemain lorsqu'ils sont restés à boire dans un bar la veille. Il arrive cependant que les conséquences du dépassement puissent être catastrophiques. La croissance de la population et de l'économie matérielle au niveau mondial fait courir ce risque à l'humanité. Et c'est le sujet de ce livre, qu'on appelle communément le rapport Meadows, et que je vous recommande chaudement. Les décroissants tout chauds vous saluent bien. La prochaine émission sera enregistrée sur le stand de Radio B à la Fête de la Science, le 5 octobre. Et le thème, c'est l'eau. On écoute Dominique A. L'océan, à bientôt sur les bonnes ondes.
On entendait de loin s'écraser contre terre, écumé de colère d'être ainsi rejeté, au pied de pauvres dunes sur d'indignes rochers, lui pourtant si puissant, pourtant si volontaire. On courait sur les dunes et il apparaissait, et parfois il daignait nous couvrir d'écume. Un de ces jours bleu-gris où sa colère montait contre la terre et les humeurs de la lune, l'océan. Il n'en finissait pas comme la vie lointaine qu'on n'aurait qu'en plus tard, il faudrait être vieux. Il n'en finissait pas comme les mille semaines qu'en septembre passé s'éteignaient tous les feux que l'eau salée attisait en nous-mêmes, que les enfants d'Éole entretenaient furieux. Cette douce violence qui nous brûlait les yeux dès qu'on entrait en lui et qui noyait nos peines. L'océan. Si ma ligne de vie venait à se casser, j'aimerais pour finir avoir encore le temps de monter sur la dune et le voir écumer. J'aimerais pour finir regarder l'océan comme lorsqu'on courait et qu'il apparaissait et qu'on criait de joie, ivre de sa colère. On ne le craignait pas et nous en étions fiers. C'était la même colère qui en nous s'élevait, l'océan.